أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
جب بھی دنیا میں زمینی یا آسمانی آفات آتی ہیں
Lorsque les calamités célestes ou terrestres frappent le monde, toute personne qui craint Dieu redoute qu'elle ne soit frappée par les mêmes calamités qui ont frappé les autres. Ces personnes redoutent qu'une action de leur part puisse attirer la colère de Dieu. Seul le véritable croyant pense en ces termes. Le croyant qui comprend que Dieu est indépendant. Lorsqu'il ressent ces pensées, le véritable croyant essaye de vivre selon le plaisir de Dieu, tout en craignant Dieu. Dieu déclare à propos de ses croyants Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. En vérité, ceux qui tremblent par crainte de leur Seigneur. Ensuite, il est dit « Bi ayati rabbihim yu'minun ». C'est en raison de cette crainte qu'ils croient en leur Seigneur et ils n'associent pas de Dieu à leur Seigneur. Ils se tournent toujours vers Dieu, vers leur Seigneur, quelle que soit la situation. Et ils ne se souviennent pas de Dieu uniquement lorsqu'ils sont frappés de calamité pour ensuite l'oublier lorsqu'ils ne sont plus en difficulté. En toute situation, quel que soit leur état, qu'ils soient dans l'aisance ou qu'ils soient en pleine difficulté, qu'ils soient en pleine détresse ou en pleine tranquillité, ils se souviennent toujours de Dieu. Et ils essayent d'accomplir davantage de bonnes œuvres. Ils se souviennent de Dieu aussi lorsque Dieu leur accorde sa protection contre toute calamité. Ils se souviennent de Dieu lorsqu'ils ne sont pas en plein désarroi. Et lorsqu'ils sont en difficulté, ils se tournent davantage vers Dieu. Lorsqu'ils voient des désastres climatiques, ils suivent l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète qui est pour nous le modèle parfait et qui sera le modèle parfait pour tout croyant jusqu'à la fin des temps. Comment agissait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en de telles situations? Hadrat Aisha rapporte à ce sujet que lorsqu'il y avait des signes, des tempêtes, ou lorsqu'il y avait des vents violents, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam priait ainsi: « Oh Allah, je demande de tout ce qu'il y a de bien et qui accompagne ces vents, tout bien qui soit caché ou évident. Et oh mon Seigneur, je demande la protection contre toute chose néfaste qui accompagne ce vent, qu'elle soit apparente ou cachée. » Et lorsque les nuages recouvraient le ciel, le visage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam changeait. Des fois, il entrait dans sa maison, des fois il en sortait, il faisait des va-et-vient. Et lorsqu'il pleuvait, sa crainte disparaissait. Hadrat Aisha radhiyallahu anha déclare que je pouvais voir cela sur le visage du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle déclare que j'en ai demandé la raison une fois au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu: « Oh Aïcha, j'ai peur, attention, que ces nuages ne soient pas similaires à ceux qui ont été la cause du châtiment du peuple d'Ard. » Dieu déclare à propos de ce peuple que lorsqu'ils ont vu des nuages s'approcher de leur vallée, ils ont dit que ces nuages vont nous apporter une pluie fine. Mais ces nuages étaient en fait porteurs du châtiment de Dieu. Voilà donc comment agit un serviteur parfait de Dieu, celui qui est humble. Dieu a fait d'innombrables promesses au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a promis qu'il sera protégé de toute calamité. Il lui a aussi promis qu'il va progresser et qu'il remportera de grandes victoires. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam savait aussi qu'aucune calamité ne frappera les musulmans tant qu'il sera parmi eux. Il savait aussi que les autres profiteront des bénédictions qui découlent de sa personne. La tromperie d'aucun antéchrist ne pourra les affecter. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait aussi que ses vents et ses tempêtes étaient toujours en sa faveur. On a fait le constat au cours de la bataille de Badr ou de la bataille du fossé. Ces tempêtes ont été la cause de la déroute et de la défaite de ses ennemis. Mais il avait quand même des soucis. Il avait peur, attention, que son peuple ne soit complètement anéanti par ces calamités. Son désarroi était en fait tributaire de sa miséricorde, car lui, il était une miséricorde pour l'humanité et il était toujours plein de soucis concernant son peuple. Comme l'a rapporté Hadrat Aisha, on pouvait voir le changement causé par ce désarroi sur son visage. Car il savait que Dieu était indépendant et il était soucieux. Attention que l'arrogance de certains parmi son peuple et le fait qu'il n'arrive pas à reconnaître le pouvoir de Dieu puisse être la cause de la destruction du peuple tout entier. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la sourate Hud l'a vieilli, car on y trouve mention de la destruction des peuples. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a compris véritablement les enseignements de Dieu. Personne d'autre pouvait comprendre cela mieux que lui. Il avait le souci que son peuple devait tout le temps marcher sur la voie du plaisir de Dieu. Et il savait que c'était là sa responsabilité. Car Dieu lui avait dit: « Fastaqim, kama umirtam, wa man tarba ma'aka, wa la tatraw. » Tiens-toi donc tout droit, comme il t'a été commandé, ainsi que ceux qui se sont tournés avec toi vers Allah avec repentir. Et ne dépassez pas les limites. Il est dit aux croyants ici qu'ils ne doivent pas dépasser les limites. Outrepasser les limites signifie attirer la colère de Dieu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam désirait tout le temps que les croyants se repentent sincèrement. En voyant les signes d'une tempête ou lorsqu'il voyait ces nuages, il était tout soucieux, car il avait peur que les actions des croyants puissent attirer la colère de Dieu. Il avait peur que leurs méfaits n'attirent la colère de Dieu. Et il est dit aux croyants dans ces versets qu'ils se sont repentis une fois, mais qu'ils doivent tout le temps suivre l'exemple que Dieu leur a donné. Qu'ils sachent que Dieu est indépendant. Les croyants ne doivent pas suivre l'exemple de ceux qui se souviennent de Dieu uniquement lorsqu'ils voient les calamités et qui retournent vers leurs méfaits une fois que les difficultés disparues. La repentance du croyant doit être sincère. Sa repentance doit être permanente. À ce propos, Allah déclare dans le Saint-Coran en disant « Wa'idha rashiyahum marjun kathulali da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina ila kullu khattarin kafur » Et lorsque les nuages les enveloppent comme autant de couvertures, ils invoquent Allah, étant sincères dans leur foi en lui. Mais lorsque Dieu les ramène sains et saufs à terre, alors certains d'entre eux suivent le droit chemin. Et personne ne nie nos signes, sauf les perfides et les ingrats endurcis. Le véritable croyant implore toujours Dieu, qu'il soit en difficulté ou qu'il soit dans l'aisance. Les perfides et les ingrats, quant à eux, ils oublient Dieu. Ils commettent les mêmes méfaits qu'ils commettaient auparavant. Ils commettent ces mêmes actes polythéistes qu'ils commettaient auparavant. Le véritable croyant ne craint pas Dieu uniquement lorsqu'il est en difficulté. Ce ne sont pas uniquement les malheurs qui le frappent personnellement qui renforcent sa foi. Comme il a été dit à propos de la personne du saint prophète Mohammed Mustafa, la fin des autres peuples aussi lui inspire la crainte, que ce soit des peuples du passé ou que ce soit des peuples contemporains. Si la fin des peuples anciens lui inspire la crainte, les calamités qui frappent ses contemporains lui poussent à craindre Dieu davantage. Voilà comment doit agir le croyant. Et cela doit le pousser à se tourner davantage vers Dieu et lui demander sa direction. Mais le monde ne comprend pas cela. La plupart d'entre eux croient que ces désastres climatiques ou que ces calamités font partie de la loi de la nature Et ces calamités frappent régulièrement. C'est quelque chose d'ordinaire. Cette connaissance a retiré toute crainte de Dieu dans le cœur de l'homme d'aujourd'hui. C'est vrai que ces calamités frappent selon la loi de la nature. C'est vrai aussi que la cause des tremblements de terre sont les mouvements des plaques tectoniques. Et c'est vrai aussi que la Nouvelle-Zélande, que le Japon ou que certains pays de l'Orient se trouvent sur ces plaques tectoniques qui sont en mouvement. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de tremblements de terre dans ces régions. Mais on doit aussi se demander si un prophète de Dieu n'a pas fait des prophéties concernant ces calamités. Un prophète de Dieu a-t-il fait des prophéties concernant ces calamités et les a-t-il liées avec ses déclarations? Il y avait un de nos missionnaires, le Morlana Azim Mubashir Saheb, qui a travaillé au Ghana. Il avait informé les gens de cette contrée concernant l'avènement du Messie promis à l'Islam. Il leur a informé à propos de ces avertissements. Les ulémas du Ghana et d'autres personnes ont répliqué que les tremblements de terre font partie des signes de l'avènement du Messie et du Mahdi. Si vous êtes véridique, alors montrez-nous ces signes ici dans notre pays. Généralement, le Ghana n'est pas frappé de tremblements de terre. Le missionnaire Ahmadi a prié en ce sens et il y a eu un séisme qui a frappé ce pays. Cela fut la cause d'un grand désarroi et beaucoup de personnes parmi les chrétiens ont embrassé l'Ahmadiyya et beaucoup de musulmans aussi ont embrassé l'Ahmadiyya. Il y en a d'autres qui n'ont pas accepté, mais en tout cas ceci était très connu là-bas, ainsi qui concernait les tremblements de terre. En tout cas, le Messie promis à l'Islam a lié son avènement avec ces tremblements de terre et avec ces calamités. Que dit-il à ce sujet? Quelles sont les prophéties qu'il a faites concernant ces événements et concernant sa déclaration? Le Messie premier l'Islam déclare: on m'a informé que la mort va se répandre partout dans le monde. Il y aura des tremblements de terre terribles qui feront penser aux scènes du jour de la résurrection et qui remueront la terre sens dessus-dessous. La vie de beaucoup de personnes sera emplie d'amertume. Mais Dieu aura pitié de ceux qui se repentiront et éviteront le mal. Cette époque a été prédite par tous les prophètes de Dieu. Donc il faudra que tout se réalise. Ceux qui auront un cœur pur et qui marcheront sur le chemin de Dieu n'auront aucune crainte. Ils n'auront aucun chagrin. Dieu m'a dit: tu es un avertisseur que j'ai envoyé pour distinguer entre les justes et les méchants. Et il m'a dit: un avertisseur est venu au monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Dieu cependant le reconnaîtra et établira sa véridicité par de terribles assauts. Je verserai sur toi tant de bénédictions que les rois chercheront des bénédictions de tes vêtements. Le Messie promis l'Islam déclare: Dieu m'a annoncé qu'il y aura un tremblement de terre terrible dans ses effets. Il m'a dit, le printemps est revenu et la parole de Dieu s'est accomplie une fois de plus. Donc, il doit y avoir un autre tremblement de terre. Mais les personnes justes seront en sécurité contre ces effets. Soyez justes et craignez Dieu maintenant pour que vous n'ayez pas la crainte de ce jour-là. Il est nécessaire que le ciel fasse voir des merveilles et que la terre fasse voir quelque chose, mais ceux qui craignent Dieu seront sauvés. Dieu m'annonce maintes tribulations et que de grandes calamités frapperont la terre, certains durant ma vie même, d'autres après moi. Ma mission aura en partie du succès durant ma vie et en partie après moi. Voilà donc les déclarations du Messie promis à l'Islam. J'en ai fait mention peut-être l'année dernière dans le même contexte. J'ai dit qu'il n'y a pas eu dans le passé le même nombre de calamités qui a frappé le monde au cours de ces 100 dernières années. Ce n'était pas des petites calamités, mais des grandes. Il n'y a pas eu dans le passé autant qu'on a vu au cours de ces 100 dernières années et avec la même intensité. Dieu est en train de montrer ceci à plusieurs reprises dans différentes parties du monde. C'est pour cette raison que nous devons, quant à nous, avoir tout le temps en tête ces avertissements. Nous devons renforcer notre foi et nous devons aussi transmettre le message du Messie promis à l'Islam aux autres. Ce message qu'a apporté le Messie promis à l'Islam. Il a déclaré que certains de ces signes vont se manifester après ma mort. Nous devons informer le monde avec la même ardeur qu'il l'a fait. La semaine dernière, il y a eu ce terrible tremblement de terre au Japon qui a été accompagné d'un tsunami. Ces deux calamités ont rayé de la carte des villes entières. Ces villes qui ont été détruites par le tremblement de terre ont été transportées par les eaux. Il y a notre équipe composée d'Ahmadi qui est partie dans cette région pour venir en aide aux sinistrés. Au téléphone, ils ont informé que nous sommes en train de passer par une ville où il y avait 15 à 20 000 habitants. Maintenant, il n'y a plus des signes de l'existence de cette ville. Il n'y a plus de route et de grands bâtiments ont été complètement engloutis sous les eaux. Tout cela est très effrayant. En ayant cette crainte au cœur, nous devons suivre l'exemple de notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons prier pour que le monde puisse reconnaître la vérité, qu'il soit protégé de ces calamités. Au lieu qu'ils soient détruits par ces calamités, que Dieu leur ouvre le cœur. Nous devons donc transmettre le message de Dieu. Et le Messie promis à l'Islam avait des espoirs concernant les Japonais. Il voulait leur transmettre son message. Ils ont été frappés par ces calamités, certes, mais il y a aussi des bonnes nouvelles pour eux. S'ils comprennent le message du Messie promis à l'Islam, s'ils comprennent le message de Dieu, ils seront certainement sauvés. C'est pour cette raison que nous devons nous aussi agir en ce sens. La Jamaat au Japon est toute petite, mais elle doit faire de son mieux pour transmettre ce message. Elle doit transmettre ce message de l'islam avec sagesse. Dans de telles situations, elle doit faire preuve de sagesse, leur transmettre le message de l'islam et servir aussi l'humanité. Nos frères Ahmadis sont en train de venir en aide aux sinistrés. Ils ont établi plusieurs camps. Ils sont en train de fournir de la nourriture. Mais on doit faire en sorte que ces contacts soient permanents afin qu'ils puissent connaître le message sublime de l'islam. Les Japonais sont fiers de leur religion traditionnelle, le shintoïsme. Certains d'entre eux sont des bouddhistes. Selon une étude, il est dit qu'ils pratiquent les deux religions. Pour les mariages, ils font usage des traditions shintoïstes. Et pour les décès, ils ont recours aux traditions bouddhistes. J'ai un ami japonais qui a un lien très étroit avec la communauté et qui est en contact avec de hauts responsables. Il m'a dit une fois que c'est en raison de notre religion shintoïste que les Japonais ne sont pas intéressés avec l'islam. Je lui ai dit que le shintoïsme présente des excellences et des vertus, mais un jour, les Japonais devront se tourner vers l'islam. L'enseignement shintoïste nous présente de très bons enseignements concernant la moralité. On dirait qu'ils ont adopté les excellences de l'islam. Le Messie promis à l'islam désirait transmettre le message de l'islam au Japon. Dans une session, il a déclaré que j'ai su que les Japonais sont intéressés par l'islam. C'est pour cette raison qu'on doit écrire un livre qui va leur présenter toutes les vérités de l'islam en détail. Un livre qui présentera l'image complète de l'islam. Tout comme l'on décrit de la tête jusqu'aux pieds une personne, on doit présenter les excellences de l'islam dans cet ouvrage. On doit parler sur chaque aspect de ses enseignements et présenter aussi les résultats et les fruits de l'islam. Il doit y avoir une partie séparée qui concerne la moralité et on doit présenter aussi une étude comparative avec les autres religions. Ces personnes ne savent rien à propos de l'islam. Le Messie premier à l'islam déclare que je n'ai pas confiance dans les autres ouvrages qu'ils ont écrits à propos de l'islam, car ces livres sont remplis d'erreurs. Il parle à propos des livres écrits par les autres musulmans. Et il déclare que si l'on présente ces ouvrages remplis d'erreurs aux Japonais, on va ridiculiser l'islam. L'islam est celui que nous présentons, nous. Nous avons donc la responsabilité en tant qu'Ahmadi que de présenter un livre complet sur l'islam. Je pense qu'on n'a pas encore écrit quelque chose à ce sujet. C'est vrai qu'il y a d'autres ouvrages sur l'islam dans la langue japonaise. Le Messie premier l'islam a aussi déclaré qu'on doit écrire ce livre et demander à un japonais de le traduire, même à grands frais, même si on devait payer 1000 roupies. 1000 roupies était une très grosse somme à l'époque. Aujourd'hui, on est en train de réviser la traduction du Saint-Coran. C'est notre missionnaire, M. Zawla, et un frère Ahmadi japonais qui sont en train de travailler dessus. Et ils ont presque complété ce travail. Je veux aussi mentionner un rêve du deuxième calife concernant le Japon. En 1945, il a écrit à ce sujet que dans ce rêve, on lui a fait comprendre que le peuple japonais est moribond et que Dieu va les pousser vers l'Ahmadiyya, c'est-à-dire qu'ils sont morts spirituellement et que petit à petit, ils vont progresser et ils vont répondre à mon appel, à l'instar des oiseaux qui ont répondu à l'appel du prophète Abraham. Voilà donc le rêve du deuxième calife. Nous devons donc nous atteler à cette tâche parce que Dieu est en train de nous offrir l'occasion de servir ces peuples. Nous avons aussi l'occasion de leur prêcher le message. Il faut tout simplement faire plus d'efforts en ce sens. Notre devoir, c'est d'informer tous les peuples. Le Japon a été frappé de ce tremblement de terre et de ce tsunami. Certains disent qu'il n'y a pas eu de telle calamité en 1000 ans. Le Japon est frappé de séismes souvent et leurs bâtiments peuvent résister aux secousses sismiques. Lorsque le décret de Dieu entre en action, rien ne peut l'arrêter. Ils disent qu'ils peuvent bâtir des édifices qui peuvent résister à des séismes de 7,5 à 8 sur l'échelle de Richter. Ce séisme qui a frappé le Japon était de 9 sur l'échelle de Richter. Et le tsunami a causé encore plus de dégâts. L'homme pense qu'il a fait beaucoup de progrès, qu'il a pu inventer de nouvelles choses et qu'il a pu maîtriser la nature et qu'il a pu aussi maîtriser l'atome. Et au Japon, ils sont en train d'utiliser l'atome. Certes, ils sont contre les bombes atomiques, car les Américains avaient bombardé le Japon avec des bombes atomiques au cours de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour cette raison qu'ils en sont tout effrayés. Ils sont contre les bombes atomiques. Mais en tout cas, ils sont en train d'utiliser l'atome pour leurs avantages et pour leur progrès économique. Mais après ce séisme, les réacteurs atomiques sont en train de causer encore plus de dégâts. Les radiations sont en train de se répandre dans l'atmosphère. J'ai reçu un fax du Japon et ils m'ont informé qu'ils sont en train, à l'aide des hélicoptères, d'essayer de refroidir les réacteurs. Et les pompiers aussi sont en train de faire des efforts en ce sens. Qu'Allah accorde sa grâce et qu'il les protège de plus de destruction. J'ai dit à nos volontaires Ahmadi et les autres qui habitent là-bas d'utiliser deux médicaments homéopathique. Il y a le radium bromide CM et carcinosène CM. Il faut alterner la prise de ces médicaments, de prendre un de ces médicaments après une semaine et l'autre après une semaine, c'est-à-dire de prendre ces médicaments à tour de rôle tous les deux semaines et d'en offrir aux autres. Si ces médicaments ne sont pas disponibles, Humanity First peut aussi envoyer ces médicaments là-bas. En tout cas, ce tremblement de terre et ce tsunami a causé de grands dégâts au Japon. Et il y a aussi le danger de l'irradiation. dont les conséquences néfastes vont être à très long terme. Il y a eu le tremblement de terre et le tsunami. Leurs effets ont été temporaires, mais s'il y a de l'irradiation à grande échelle, l'effet va se faire sentir sur plusieurs générations. Les enfants vont naître avec des malformations. Qu'Allah ait pitié de ces personnes. Ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri et qui n'ont pas accepté l'imam de l'époque ne sont pas à l'abri selon les prophéties du Messie promis alayhi salam. Et s'ils ne se tournent pas vers Dieu, eh bien, ces calamités vont les frapper tous. Que Dieu leur accorde la possibilité de reconnaître Dieu et son pouvoir. Au cours de cette année, cette partie du monde, c'est-à-dire l'Orient, le Japon et l'Australie, cette partie du monde a été frappée de 3 désastres. 3 pays en ont été affectés. Une partie importante d'une ville néo-zélandaise a été détruite. Ils disent qu'en 1931, il y a eu un grand tremblement de terre en Nouvelle-Zélande et 2 villes ont été détruites. C'est vrai que le séisme qui a frappé la Nouvelle-Zélande cette année était moins violent que celui de 1931, mais ce séisme a causé de grands dégâts. 70 000 personnes sont sans abri. 75% de la ville a été détruite. Il y a eu aussi des tempêtes qui ont causé de grands dégâts en Australie. 70 villes ont été sinistrées. Et toute la région du Queensland a été affectée. Cette région du Queensland est 4 fois plus grande que le Japon. Tout cela a réduit à néant leur orgueil, eux qui se disent que nous possédons de grands terrains et que nous pourrons trouver refuge ici et là. Cela a aussi affecté l'économie australienne. Dans la région du Queensland, il y a des mines de charbon. 50% de ces mines ont été affectées. Il y a eu des pertes de 2,3 billions de dollars et l'économie a fait des pertes de 30 billions de dollars. Il y a aussi eu des tempêtes dans la région de Victoria. Et selon les climatologues, ce fut la tempête la plus dévastatrice de l'histoire de la région de Victoria. Voilà la situation du monde. Et ils ont aussi l'orgueil de dire que nous sommes en train de faire de grands progrès. Les années précédentes, il y a eu d'autres tempêtes qui ont frappé les Amériques et ils n'ont pas pu sauver grand monde. Les autres ne doivent pas croire qu'ils sont à l'abri de ces calamités et que ces calamités n'affectent que ces régions spécifiques. Dieu désire réunir le monde entier sous une seule bannière. Il veut qu'il soit reconnu et pour cela il a envoyé le Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam déclare que Dieu a constaté que le monde se trouve en pleine obscurité et que les hommes se sont empêtrés dans l'incroyance, le polythéisme et la négligence. Il a constaté aussi que la foi ainsi que la véracité sont en plein déclin et il a constaté que la vertu est en plein déclin. C'est pour cette raison qu'il m'a envoyé afin qu'il puisse rétablir la vérité concernant la foi, afin qu'il puisse rétablir la connaissance et les excellences, afin qu'il puisse aussi protéger l'islam des attaques des philosophes, des naturalistes, du polythéisme et de l'athéisme, des concepts par lesquels ils veulent détruire le jardin de Dieu. On va donc maintenant rétablir la véracité de l'islam par l'entremise du Messie premier l'islam. Si l'on veut prouver la supériorité de l'islam cela va se faire en suivant ce champion de Dieu. C'est en suivant le Messie premier l'islam que l'on pourra prouver la supériorité de l'islam. Aucune autre organisation, aucune autre jamaat ne pourra atteindre cet objectif. La Oumma doit réfléchir sur le désarroi du saint prophète lorsqu'il voyait les signes d'une tempête. Sommes-nous en train de suivre cet exemple? S'il n'en est pas ainsi, alors nous avons certainement des soucis à nous faire, car Dieu est indépendant. Dieu n'a pas de lien de parenté avec quiconque. Dieu est avec celui qui s'acquitte en toute sincérité de son devoir envers lui. L'année dernière, il y a eu des inondations au Pakistan, les pires inondations qu'ait connues ce pays, des inondations qui ont recouvert le pays du nord jusqu'au sud, des inondations qui ont englouti toutes les provinces, et les analystes ont dit que ces inondations causaient plus de dégâts que le tsunami de l'Indonésie. Jusqu'à présent, il y a des sinistrés dans des camps. Les gouvernants ne font rien pour leur trouver un logement, ni les mollahs qui se soulèvent contre les Ahmadis ou qui les soulèvent contre les Ahmadis et qui disent avoir de la sympathie pour eux sont en train de faire quelque chose pour eux. Le pays est en plein émoi, mais les masses ne comprennent pas ce qui se passe avec eux et ils ne cessent de rejeter l'imam de l'époque. Après les dernières inondations, les mollahs sont venus à la télé pour consoler les populations en disant que ce n'était pas un châtiment divin, que c'était tout simplement une épreuve. Et Dieu éprouve certainement les croyants. Et ils ont accepté eux-mêmes qu'il y a des châtiments lorsqu'il y a l'avènement des prophètes. Mais il n'y a pas eu de prophète, certainement il n'y a pas eu de châtiment. Et ils ne sont pas prêts d'écouter celui qui a fait des déclarations en ce sens. Qu'Allah ait pitié de ce peuple. Quelques années auparavant, il y a eu un autre grand tremblement de terre qui a causé de grands dégâts. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce qu'ils ne réfléchissent pas, ils ne comprennent pas qu'un envoyé de Dieu a fait des prophéties à propos de ces prophéties et qu'ils sont en train de le rejeter. Le Messie premier, l'Islam, a déclaré que certaines de ces calamités vont les frapper après lui. Donc ouvrez les yeux, tirez le son de ces calamités. Ô vous qui dites être parmi les gens éclairés. Le Messie premier al-Islam a déclaré que vous non plus, vous n'êtes pas à l'abri de ces calamités. Il a déclaré que ces prophéties concernent le monde entier. Le Punjab n'est pas à l'abri. Il parlait à l'époque du Punjab. Il a déclaré que le Punjab n'est pas une exception, ni les autres villes du sous-continent indien ne sont pas à l'abri. Il a déclaré que l'on ne pourra pas cacher la vérité. C'est pour cette raison que vous avez des soucis à vous faire. Le Messie premier al-Islam déclare: sachez que Dieu m'a informé à propos des tremblements de terre. Suite à mes prophéties, il y a eu des séismes en Amérique et en Europe. Il y en aura d'autres qui vont frapper l'Asie. Des cataclysmes qui seront à l'image de l'Apocalypse. La mort sera partout. Des rivières de sang vont même couler. Les animaux et les oiseaux ne seront pas à l'abri de la mort. La destruction va frapper le monde. Sa destruction sera inouïe. La plupart des régions seront si sévèrement touchées que l'on croirait qu'elles n'ont jamais été habitées. d'autres cataclysmes encore plus épouvantables frapperont le ciel et sur terre. Et toute personne intelligente comprendra que ces faits sortent de l'ordinaire. Et elles n'en trouveront aucune mention dans aucun livre de philosophie ou d'astronomie. Le désarroi frappera les cœurs et certains seront complètement abasourdis. Certains seront détruits, d'autres seront sauvés. Ce jour est proche, je le vois de mes yeux. Le monde témoignera d'une scène de l'Apocalypse. Il n'y aura pas que des tremblements de terre. D'autres cataclysmes effroyables frapperont d'autres du ciel et certains sur terre. Tout cela parce que l'homme a abandonné le culte de son Seigneur et parce qu'il a consacré tout son cœur et tous ses efforts à l'acquisition de ce monde. Si je n'étais pas venu, certains de ces malheurs auront été repoussés jusqu'à plus tard. Avec ma venue, Dieu a décidé de manifester sa colère, une intention qu'il a maintenue secrète depuis fort longtemps. Tout comme il a déclaré, « Et nous ne châtions jamais avant d'avoir envoyé un messager ». Ceux qui se repentiront se retrouveront à l'abri. Miséricorde sera faite à ceux qui craindront Dieu. Croyez-vous que vous serez à l'abri de ces séismes? Croyez-vous que vous serez à l'abri grâce à vos subterfuges? Non, ce sera le jour de la fin des œuvres de l'homme. Ne croyez pas que l'Amérique ou d'autres contrées ont été frappées et que vous êtes à l'abri. Je vois, quant à moi, que vous serez frappés de malheurs plus terribles. Ô Europe, tu n'es pas à l'abri. Ô Asie, toi non plus, tu n'es pas à l'abri. Ô habitants des îles, aucun faux Dieu ne vous viendra en aide. Je vois des villes en ruine, je vois des maisons vidées de leurs habitants. Dieu, l'unique, fut silencieux pendant longtemps et on a commis des atrocités devant ses yeux sans qu'il se manifeste. Mais maintenant, il montra son visage en frappant les cœurs d'effroi. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il sache que ce temps n'est pas loin. Je me suis évertué à réunir tout le monde sous la protection de Dieu, mais il est essentiel que les décrets divins s'accomplissent. Ce sera bientôt le jour de ce pays. Vous verrez des scènes de l'époque de Noé. Vos yeux témoigneront les événements que vécurent la terre de Lot. Mais Dieu est lent à manifester sa colère. Repentez-vous afin qu'il vous fasse miséricorde. Celui qui abandonne Dieu est un insecte et non pas un être humain. Et celui qui ne le craint pas est mort et non pas vivant. Les musulmans du sous-continent indien doivent se réveiller car ils ne sont pas à l'abri. Le Messie premier Islam a donné des avertissements répétés et sévères. Ces avertissements, nous devons les répéter nous aussi. Il y a de la sympathie dans ces avertissements. Nous devons nous aussi, par sympathie, présenter cela au monde et leur faire comprendre ces faits. Les musulmans de l'Inde doivent se réformer et doivent cesser de commettre leurs infamies contre le Messie promis à l'Islam. Les musulmans du Bangladesh doivent aussi contrôler leur langue. Les musulmans du Pakistan doivent aussi se réveiller. Ils ont vu de très près ces désastres et ces calamités. Craignez Dieu. Des îles ont été frappées par ces calamités. Le Japon se trouve dans une situation très difficile. Tout le monde doit en tirer leçon de ces situations. Qu'Allah fasse que les musulmans puissent comprendre cette vérité et qu'ils puissent accepter le message de l'imam de l'époque. À part ces désastres naturels, tous les pays musulmans se trouvent aujourd'hui en grande difficulté. Ce sont là encore d'autres épreuves pour ces pays. Les peuples sont assoiffés du sang des gouvernants et les gouvernants sont assoiffés du sang de leur peuple. Les musulmans sont en train de s'entretuer. Il n'y a pas de plus grand malheur pour les musulmans. Si seulement ces musulmans comprenaient que Dieu a envoyé celui qui devait être source de salut pour la Oumma. Si vous voulez la protection, venez sous la protection de l'envoyé de Dieu. Qu'Allah fasse qu'il puisse comprendre cela. Qu'Allah fasse que nous soyons de vrais musulmans, qu'il nous donne aussi l'occasion de transmettre le message de l'islam véritable en étant imbu de sympathie pour l'humanité et que nous puissions prier davantage. Je veux aussi mentionner la nouvelle d'un décès que j'ai reçu avant de venir pour la prière de Jumma. Il y a notre frère Ahmadi, un jeune nommé Rana Zafrullah de Sangar, fils de Mohamed Sharif, qui est tombé en martyr. Il était Qaïd Majlisul Khodam Al-Ahmadi. Il était aussi le secrétaire financier de la communauté de la région. Deux personnes à moto lui ont tiré dessus et il est tombé en martyr. Il retournait d'un programme organisé par la communauté lorsqu'il était tout près de sa maison. Ces deux personnes lui ont tiré dessus. Il a été touché de 3 balles à la poitrine. Son frère est sorti de la maison pour lui venir en aide. Il était à même le sol. Il a été transporté à l'hôpital de Nawabshah, mais il est tombé en martyr en cours de route. Qu'Allah exalte son statut. Il a laissé son épouse et 2 filles. Au cours de ces quelques années, il y a eu 5 martyrs dans la région de Sangar. C'est une toute petite jamaat, mais qui a fait de grands sacrifices. Qu'Allah accorde sa protection aux Ahmadis de là-bas et qu'il attrape aussi les coupables. Que Dieu accorde sa protection à sa femme et ses enfants, qu'il leur accorde patience et persévérance. Après la prière de Jumma et d'Asr, je vais diriger sa prière funéraire.